L'air paranormal ne serait peut-être pas aussi paranormal que cela. C'est-à-dire que tous les événements qui nous encouragent, pour certains tout du moins, à inventer une sorte de lien avec l'au-delà, eh bien, pourraient se traduire par un lien global simplement entre les êtres humains. Mm-hmm. C'est peut-être plutôt ça le thème de notre conversation aujourd'hui, mon cher Grégory Gutiérrez et Maxence Layet. Nous sommes d'accord ? Ce sont les premiers éléments de la démonstration telle qu'elle apparaît avec tous ces ordinateurs qui captent nos émotions ?
Oui, là on a effectivement parlé un peu de l'origine des machines. Après on a abordé l'initiative de Nelson qui a été de sortir ces machines d'un environnement protégé pour les mettre à l'extérieur.
In vivo,
comme il dit, oui, effectivement. Et en fait, l'étape, donc ça a été vraiment il appelait le field rag, c'est-à-dire donc un générateur aléatoire
de terrain. Quoi.
Voilà, de terrain.
Évitons de traduire à chaque fois, restons en français.
La dernière étape a été, et si ces dispositifs qui peuvent être mis sur le terrain, et si on les relie entre eux, et si on tissait comme ça une toile équivalente à Internet, en quelque sorte, un réseau de nœuds, d'ordinateurs, les eggs en l'occurrence, si on tissait donc une toile de ces différents eggs qui seraient positionnés un peu partout autour de la planète, et on les laisse fabriquer des données, et on écoute, tout simplement.
Y a-t-il une incidence du nombre de eggs reliés ? Y a-t-il une amplification de l'enregistrement ? C'est-à-dire, si vous avez trois eggs sur trois, donc trois endroits du monde, si soudain vous en avez 15, est-ce que l'amplification est notée sur la machine ?
Est-ce que le signal est plus grand ?
Voilà.
Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que le signal est plus grand, parce que les résultats statistiques qui sont sur le site du Global Consciousness Project ne montrent pas qu'il y ait des résultats plus grands aujourd'hui qu'il y a 3 ou 4 ans. En revanche, ils sont de bien meilleure qualité.
Oui, mais alors On va arriver, puisque j'ai dit, l'influence des événements qui touchent le monde. Alors, des expériences ont montré, par exemple, au moment de bombardement en Yougoslavie.
Oui, il y a des bombardements au Kosovo en mars 99. Les aigles, il y avait à ce moment-là une douzaine d'ordinateurs qui tournaient dans le monde, essentiellement en Europe et aux États-Unis. Et le jour des bombardements, où les bombardements ont commencé, le 24 mars, les aigles, on a enregistré sur cette douzaine d'aigles des déviations par rapport au hasard clairement significatives. Alors c'est des échelles très petites, hein, parce qu'on est à un niveau vraiment minuscule de détails mathématiques et de discussions entre mathématiciens et statisticiens, etc. Mais c'est des résultats qui sont là, qu'on peut pas ignorer. Ce jour-là, qu'on se préparait à ce qu'il y ait des bombardements en Kosovo, mais on s'attendait pas à ce qu'ils tombent ce jour-là. Et d'un seul coup, beaucoup de gens ont été focalisés par cette information et ont regardé la télé et ont écouté la radio, etc. Et il y a une grande concentration de millions de personnes sur le même thème et qui était une sorte de choc émotionnel pour beaucoup de gens. Et ce jour-là, les aigles se sont déréglés.
Alors là, on se dit, l'événement concerne l'ensemble de la planète, mais il y a des mouvements de masse énormes. Prenons les musulmans, lorsqu'ils se rendent à la Mecque. Il y a eu, là, il y a 3 semaines, ils étaient, je sais plus, 1 million, voire 2 millions à la Mecque. Ça ne concerne qu'une partie de la population mondiale. Et tous les capteurs ne peuvent pas enregistrer, mais est-ce que l'un des capteurs, lui, montre qu'il y a une montée d'émotion du côté de la Mecque ?
Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'études sur cet événement du pèlerinage à la Mecque lui-même, donc je ne peux rien vous dire là-dessus. En revanche, plus récemment, le 15 février, il y a eu un peu partout sur la planète des manifestations monstrueuses, monstrueuses au sens du nombre de personnes, pour la paix et contre la guerre en Irak. Et qui a touché énormément de pays. Il y en a eu du Japon, en France, aux États-Unis, un peu partout, et dans les pays arabes, etc. Et ce jour-là, ce jour des manifestations, le résultat statistique sur toute la journée est disponible sur le site de Roger Nelson. On voit qu'il y a clairement une déviation. Tous les aigles, il y en a donc une cinquantaine, les données rassemblées de tous ces aigles-là, une fois qu'elles sont traitées, montrent qu'à partir de 11h du matin à peu près, les machines commencent à se dérégler et ça dure quasiment toute la journée et ça s'abaisse à partir de 21h30, 22h.
Alors allons plus loin. Là c'est intéressant puisque l'ensemble de la planète s'affichait contre la guerre, mais aux États-Unis, les manifestations étaient plutôt microscopiques. Or, je pense que des capteurs sont en majorité aux États-Unis. A-t-on, à un moment, déconnecté les capteurs des États-Unis pour voir quelle était l'incidence sur le résultat global, et puis après, en réintroduisant les informations venant des États-Unis? Et à ce moment-là, est-ce que le signal avait changé?
Alors, j'ai pas cette information-là, mais...
Ce
serait intéressant, mais je vous reprends sur une information que vous venez de donner. Au tout début, effectivement, la plupart des axes se trouvaient sur le territoire des États-Unis, évidemment, des Américains qui ont lancé le projet, en collaboration avec quelques Européens. Mais aujourd'hui, on a une cinquantaine, dont la plupart en dehors des États-Unis.
Alors maintenant, la majorité se trouve en Europe maintenant.
Voilà.
Et aux États-Unis, il y en a que deux ou trois, dont un qui se trouve en Alaska. Hein, donc.
Ah bon?
Ouais, il y en a pas beaucoup aux États-Unis.
Parce que là aussi, ce qui compte, c'est de couvrir la planète. Et par rapport à...
Mais en Alaska, comme vous dites, à part les ours blancs, il y a peut-être pas grand monde.
Ouais, mais il se passe aussi des choses.
Selon la région où l'on a placé ce système de captation. Si la densité de population est très importante, ça doit avoir une action.
Ben, ça, c'est sûr. C'est-à-dire que par rapport à la question concernant les pèlerinages à la Mecque, le problème, en l'occurrence, qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce qui émerge en termes d'analyse ou de reconstruction statistique, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau global, c'est-à-dire au niveau de la planète. Donc... un événement qui ne concerne qu'une partie de la planète va... soit pas apparaître, soit apparaître très faiblement, ou alors uniquement apparaître sur le capteur, l'ordinateur qui se trouve dans l'endroit en question.
Très bien.
Et comme il y en a pas dans la péninsule arabe, eh bien localement, ça n'a pas pu être mesuré. Par contre, effectivement, c'est une bonne idée à avoir.
Il y a un exemple à une échelle beaucoup plus réduite.
C'était l'enterrement de Lady Di.
Non, en mai 2000, il y a.
Ben, on va en parler de l'enterrement de Lady Di.
Oui. Et des attentats du World Trade Center, parce que les résultats sont très impressionnants.
Oui.
En mai 2000. Le 22 mai 2000, il y a un des premiers scientifiques qui s'était intéressé au projet, qui s'appelle Barry Fenn, à Auckland, en Nouvelle-Zélande, qui avait installé deux ZEG, un dans sa société d'informatique et un autre à l'université d'Auckland, grâce à un collègue à lui, qui décède d'un cancer. Et Roger Nelson décide de récupérer les données des deux ZEG en question, pour analyser leurs résultats statistiques tout au long de la journée. Et d'après son étude à lui, il y a effectivement une corrélation entre le déroulement des faits cette journée-là et les dérèglements de l'aigle, des deux aigles pendant la journée. Par exemple, c'est à 7h du matin que Barry Fenn est admis à l'hôpital. Il décède à 9h30. À 9h30, pardon, ses proches arrivent pour le rejoindre à l'hôpital. À 12h, son décès est prononcé. Et à 14h30, la nouvelle est annoncée à tous ses proches qui n'avaient pas pu venir. La courbe donnée par ces deux aigles, par un hasard vraiment étonnant, semble coller à cette période d'événement. Et notamment à 14h30, le moment où la nouvelle est connue par tous ses proches,
la courbe enfle d'un seul coup
de manière très prononcée.
Alors
donc ça suggérerait qu'effectivement, des événements locaux influencent les aigles locaux.
Oui, effectivement. Et ce qui fait que pour les manifestations du 15 février, en fait... Bon, Nelson avait émis effectivement l'hypothèse ou une prédiction que ce jour-là, certaines anomalies allaient pouvoir apparaître au niveau de la courbe générée. Et en fait, il se rend compte que avec le début de la journée, dans son temps local aux États-Unis, début de journée, la courbe commence à enfler parce qu'en fait, il est midi du côté de l'Australie et les manifestations commencent. Et donc, il se rend compte que la courbe s'écarte un petit peu. Et quand quand l'heure tourne et que donc ça atteint midi ou 14h au niveau des pays européens, où ça a été là le gros des manifestations, là effectivement, la courbe enfle considérablement. Parce que on est, grosso modo, le gros de l'émotion partagée, le gros de l'activité collective, s'est situé au niveau de l'Europe, donc il y avait beaucoup beaucoup de populations impliquées et cette masse se retrouve répercutée en quelque sorte ou reflétée au niveau de la courbe. Donc ça débute un petit peu, ça frémit au début et quand on est sur le gros de l'événement et donc le gros, l'aspect global de l'événement ou en tout cas la principale zone, là effectivement globalement les résultats le montrent et d'autant plus ceux qui sont situés en Europe, enfin les EGG situés en Europe.
Alors reprenons les autres événements qui apparaissaient dans le papier de Pigani, dans Psychologie Magazine, c'était au mois de décembre si ma mémoire est bonne. Il y a la mort de Lady Di. Racontez ce qui s'est passé.
Bah, ça fait partie tout simplement des premiers événements qui ont été suivis par le projet. Et en l'occurrence, bon, il n'y avait pas encore le 11 septembre 2001.
On va en parler après parce qu'il y a un autre phénomène qui est encore plus intéressant, je dirais, que la simple captation de l'émotion.
Oui, tout à fait.
Alors, restons avec la princesse disparue.
Et donc là, l'émotion a été collective à travers le monde. Et là, effectivement, à l'occasion de cet événement, qui n'est pas un événement sportif, qui n'est pas forcément un événement de crise internationale, néanmoins...
C'est de l'émotionnel pur.
Là, les anomalies apparaissent. Et toujours pareil, à chaque fois, ça, bien sûr, quand on parle d'anomalie ou de déviation au niveau de la courbe, cela est rapporté à des données statistiques, à des qualités statistiques qui donnent en fait le degré de probabilité de l'événement. Donc un événement, ça peut être une anomalie, mais de probabilité faible ou très faible ou très très faible que ça puisse être dû au hasard.
Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, Maxence Layet, c'est la différence qui pourrait exister entre une émotion de grande tristesse liée à la disparition de Lady Di et à côté l'enthousiasme, par exemple correspondant à la finale de la Coupe du Monde de football. Sont des états totalement différents pour les êtres humains.
Oui.
Est-ce que la courbe montre qu'il y a une implication des psychismes, mais que pour autant ce n'est pas la même implication, qu'elle partirait pourquoi pas dans une zone négative pour Lady Di et puis qu'au contraire elle soit dans un enthousiasme positif pour l'événement sportif?
Là-dessus, Grégory, je ne sais pas si tu peux partager mon ressenti, mais c'est vrai que quand on regarde les courbes, on voit que dans certains cas de figure, la courbe s'effondre en termes d'écart par rapport à ce que le hasard devrait produire.
Oui.
Et dans certains cas, au contraire, ça monte. Donc, après, la signification qu'on pourrait y apporter n'est absolument pas, n'a jamais été abordée au niveau des...
Ça fait partie aussi des travaux qui
doivent tirer quelque chose.
Bon, mais reprenons.
Oh non, mais déjà constater qu'il y a un événement global, c'est déjà constater qu'il y a une anomalie globale au niveau du chiffre, et déjà en soi une avancée.
Ouais. Oui, ce qui est intéressant, tout à l'heure on parlait des états de communion de nombreuses personnes ensemble, par exemple lorsqu'on est à la Mecque ou lors des obsèques de Lady Diana, etc. Mais il semble que ces altérations du hasard, elles sont dues à deux états de communion des êtres humains entre eux. Il y a un état positif et un état négatif. C'est-à-dire quand de nombreuses personnes ressentent au même moment un choc émotionnel très fort, comme par exemple les attentats du World Trade Center, là aussi on a des courbes très impressionnantes. Quand on a une communion de personnes, une ferveur populaire pendant la finale du Super Bowl aux États-Unis, on a ce genre de...
Oui, mais simplement je vous disais, les courbes, il y a les courbes positives et les courbes négatives. Alors est-ce que cet état émotionnel serait reflété par la direction prise?
Donc ça n'a pas été analysé statistiquement pour l'instant.
D'accord.
Alors il y a certains membres de l'équipe projet qui effectivement dans leurs commentaires évoque le fait que là effectivement la courbe s'effondre et ça reflète un peu l'état de choc et l'état un peu de stupeur qu'on pouvait éprouver par rapport à certains types d'événements comme les tours qui s'effondrent, et par contre effectivement des moments de ferveur, de transport collectif, comme en l'occurrence ce qu'on pouvait éprouver à l'occasion des marches pour la paix du 15 février.
Le 11 septembre, là il nous faut nous y arrêter parce que ça apparaît clairement sur tous les appareils. Alors expliquez comment. Parce qu'il y a une nuance par rapport à toutes les autres données. Et à les détails, cette nuance.
Il faut déjà voir que...
Voyons déjà l'événement, comment il est perçu. Et on donnera l'information complémentaire juste après.
Il faut déjà voir qu'il y a... juste une petite parenthèse juste avant, j'en ai pour deux secondes. Que l'équipe de Roger Nelson essaie de faire des prédictions. C'est-à-dire qu'ils disent, dans deux semaines, il va y avoir tel événement qui va avoir un grand retentissement populaire. Nous devrions trouver, pendant cet événement, des déviations statistiques sur nos aigles.
Oui, parce qu'en fait...
Et après, ils vont essayer de constater le fait ou pas.
Les ordinateurs fabriquent des chiffres depuis 98. C'est-à-dire que ça fait 5 ans que, en continu, des chiffres sont générés au hasard. Donc en fait, au niveau des analyses statistiques, ils tronçonnent, ou en tout cas, ils essayent de faire des projections, de se dire, tiens, là, c'est telle période, on va l'analyser. Ou alors... mettons, au soir du solstice d'été, hop, il va peut-être se passer quelque chose à l'occasion des festivités de la Saint-Jean, par exemple.
Mm-hmm. Alors, et en revanche, pour le 11 septembre, c'est typiquement l'exemple d'un événement qui fédère l'attention de tout le monde et qui est un choc psychologique pour des millions de personnes et qui était totalement imprévisible. Mm-hmm. Donc, c'est après l'événement, que Nelson et ses collègues
se précipitent sur l'ordinateur pour regarder ce qui s'est passé.
Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des choses significatives? Et effectivement, quand ils font le déroulement de la journée, de minuit à minuit, le 11 septembre...
Alors attendez, avant de faire le déroulement de la journée, prenons la physionomie de la courbe au moment de l'impact. Est-ce que, en fonction de toutes les autres courbes qui ont été dressées sur d'autres événements, il y a là une amplitude, parce que s'il y a un événement qui a touché le monde entier, c'est bien celui-là. Est-ce que l'amplitude était beaucoup plus grande que sur tous les autres événements?
J'ai pas le chiffre sous les yeux, mais l'amplitude fait partie des amplitudes vraiment grandes des événements. C'est peut-être pas la plus grande, mais c'est une amplitude vraiment notable, très notable. Et ce qui est intéressant, c'est le déroulement, c'est le profil de cette courbe tout le long de la journée. Entre minuit et un peu avant 9h du matin... entre minuit et un peu avant 9h du matin, la courbe correspond tout à fait au hasard à ce qu'on peut s'y attendre. Le premier avion frappe la première tour à 8h45 à peu près, et il semblerait que quelques minutes avant le premier impact, la courbe commence déjà à frémir, elle monte un peu, ce qui n'est pas sans rapport avec d'autres expériences faites par Dick Bierman sur les expériences de pressentiment qui sont faites à l'échelle d'un être humain seulement. Et la courbe commence à monter. Le deuxième avion frappe la deuxième tour 40 minutes après à peu près. Entre-temps, la courbe a commencé à redescendre et d'un seul coup, elle remonte au moment du deuxième impact, au moment où le deuxième impact est annoncé dans les médias. Puis elle redescend un tout petit peu. Puis on annonce le troisième avion sur le Pentagone. La courbe remonte un petit peu. Mais jusque-là, cette déviation par rapport au hasard, elle est vraiment... Si avec ça, on pourrait dire, bon, c'est peut-être un hasard, c'est un hasard des chiffres, on ne sait pas. Mais à partir du moment où la première tour s'effondre, et c'est là que, symboliquement, il y a le choc le plus fort pour tout le monde occidental, où on voit les deux tours du World Trade Center qui s'écroulent d'un coup, le symbole psychologique est très très fort, quoi. C'est très prégnant comme événement. À partir de là, c'est très drôle à voir sur la courbe statistique, la courbe s'envole, et pendant toute la journée, elle va rester très haute.
Alors, vous avez dit, quelques minutes auparavant, il semblerait bien qu'il y ait un frémissement, et c'est cette notion de précognition. Et des expériences avaient été tentées qui montraient apparemment que nous soyons capables de percevoir ce qui allait se passer, mais non pas dans 3 ans ou dans 5 ans, c'est toujours des prédictions, disons, dans les 24 heures, c'est bien cela ? En général, même moins que ça.
Pour ce qui est des expériences de pressentiment elles-mêmes, qui ont été popularisées par Dick Bierman, mais qui ont été initiées par Dean Radin notamment, c'est à l'échelle de la seconde. C'est-à-dire qu'on prend l'hypothèse, c'est de dire si des voyants sont capables de prédire l'avenir ou de sentir un événement qui va avoir lieu de manière vraiment constatable, peut-être que cette même capacité fait partie de l'arsenal psychologique de tout être humain normalement constitué, mais à un degré bien moindre. Donc, comme chacun a des compétences artistiques, mais de plus ou moins grande échelle.
Alors, à l'instant précis, prenons l'image, à l'instant précis du tirage du loto, une fraction de seconde avant, j'ai les chiffres qui s'affichent. J'ai pas le temps d'aller valider mon billet.
C'est une manière assez grossière de montrer la chose, parce que les expériences de pressentiment sont beaucoup plus... En fait, le principe, c'est de mettre une personne devant un ordinateur. On met des capteurs sur les doigts, par exemple, ou récemment, on a fait ça avec des scanners pour voir l'activité cérébrale pendant qu'il est devant cet ordinateur. Et toutes les 5 secondes, s'affiche une image devant lui. Et les capteurs permettent, c'est des petits capteurs qui sont branchés sur les doigts et qui mesurent le micro-stress, c'est-à-dire la micro-sueur qui est générée par le stress, un stress qu'on ressent pas nous-mêmes, quoi. Mais par exemple, pendant que je suis en train de vous parler en ce moment, j'ai un micro-stress dans les doigts parce que c'est la première fois que je passe à la radio, donc.
Et puis je fais peur. Hein.
Et puis vous faites peur. Vous avez l'air très très méchant. Et les expériences de Bierman semblent montrer, et sont corrélées par d'autres expériences d'autres chercheurs, que une seconde avant que l'image apparaisse, seulement quand l'image est choquante, qu'elle va produire un choc émotionnel, eh ben le micro-stress augmente. Et quand c'est une image plate, c'est-à-dire par exemple un verre d'eau vide sur un bar, ce qui a rien d'émotionnellement choquant, il se passe rien, le micro-stress reste stable.
Voilà, une image d'horreur, ma photo qui va apparaître, voilà. Toc, il y a la montée de stress.
Moi, je l'ai essayé une fois sur un des ordinateurs de Birman.
Merci. Merci de confirmer.
Et donc, j'ai vu les images qui étaient utilisées. Alors, effectivement, les images neutres, c'est vraiment des images neutres. Un verre d'eau sur un comptoir. Et les images choquantes, ça peut être choquant ou excitant. Alors, une image choquante à laquelle j'avais été soumis, c'était un accident de voiture. Donc, on voyait tous les détails des personnes qui avaient été accidentées. Agréable, ouais. Alors, c'est évidemment pas agréable du tout sur le moment. Et une autre image, beaucoup plus excitante, c'est une jeune femme blonde dénudée qui s'offre à moi. Et alors, malheureusement, ce n'était qu'une image.
Mais ça vous a mis quand même dans tous les états, et c'est prouvé scientifiquement.
Bah, Birman m'a pas dit le résultat de cette image-là en particulier.
Alors, restons sur ce principe de précognition, puisqu'on appelle ça la précognition. Mm-hmm. Le jour du 11 novembre, l'ensemble de la population percevrait l'événement alors qu'il commence à se dérouler, alors que l'avion est en vol avant qu'il ne frappe les tours.
Oui, alors ça rajoute encore du
11 septembre.
Du 11 septembre, oui. Ça rajoute du bizarre à ce qui est déjà bizarre comme résultat, parce que déjà qu'on ait des courbes qui dévient de manière anormale pendant que les tours sont frappées et pendant que les tours s'effondrent, c'est déjà étonnant. Mais dire qu'il se trouve que quelques minutes avant le premier impact, la courbe commence à monter, ça suggère effectivement que, d'une manière inconsciente pour nous, notre stress inconscient perçoit un événement grave qui va arriver.
Sauf que lorsqu'il y a la photo, l'expérience que vous avez vécue, oui. Il n'y a pas la moindre information palpable. Là, imaginons que nous soyons tous ce qui semble être la corrélation de tous ces travaux menés depuis des années, que nous soyons tous en lien, les personnes qui sont dans l'avion, il y a les terroristes qui viennent de se manifester, il y a donc 100 personnes qui ressentent ce choc émotionnel. Oui. Elles sont liées d'autant plus avec leur famille, qui elle aussi percevra à distance. Et là, il y a une forme d'amplitude du drame perçu par la population qui grandit, et qui fait qu'à un moment donné, ça devient presque normal que la courbe s'infléchisse, puisque nous sommes conscients de l'événement avant de le connaître.
Et ça fait partie effectivement des hypothèses, ou en tout cas des explications qui sont avancées dans les documents qui sont donc des rapports sur cette fameuse journée du 11 septembre et toutes les analyses possibles au niveau de ce qui s'est manifesté sur les écrans. C'est que... En fait, l'anticipation qui a été constatée au niveau de la courbe par rapport à l'événement en termes d'événements datés à une heure et une minute précise, ça correspondrait au groupe de personnes. Enfin, en tout cas, c'est une des explications avancées. Hein. Donc, l'anticipation correspondrait en fait à un premier groupe ou au premier groupe impliqué dans l'événement, qui sont donc les terroristes, les otages, et qui donc éprouvent quelque chose qui est très fort. Et c'est cette chose qui est très forte au moment où ça commence à se vivre, même si c'est extrêmement minime, qui serait donc...
Il commence à résonner
au niveau du...
Comme on jetterait une petite pierre dans un lac et
d'accord.
Des ondes...
C'est la télépathie pure. En revanche, ce n'est pas, contrairement à l'image qui, elle, là, vous n'avez pas la moindre information, eh bien, c'est pas une minute avant que les terroristes se manifestent que l'on voit le frissonnement de la courbe.
Je sais pas quel nombre de minutes exact, mais c'est clairement plusieurs minutes, peut-être une quinzaine de minutes ou une dizaine de minutes.
Une demi-heure à peu près.
Une demi-heure, oui. Avant que le premier avion tombe sur la première tour.
Alors c'est important. Puis on s'arrête pour faire une page. Attendez, on va continuer la conversation. On fait une page de pub et on revient là-dessus.